Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur Michel Léon. Bonjour.
Bonjour.
Michel Léon, vous êtes ici pour nous parler des Sans Radio, un ouvrage que vous avez rédigé qui relate l'histoire d'un mouvement citoyen sur l'Est parisien dans les années 2000-2010 et qui réclamait justement un retour sur les ondes FM de Radio France.
Exactement. En fait, en 2002, je me suis aperçu par un petit matin que je n'avais plus accès à, entre autres, France Inter. Dans la voiture, j'emmenais ma fille au métro. J'habitais Porte de Bagnolet, donc tout se passe autour de cette Porte de Bagnolet où commence l'autoroute A3. Pour ceux qui y passent, il y a une circulation très dense. Et cette nuisance dont je me suis aperçu concerne, mais ça je l'ai compris plus tard, j'avais estimé vaguement 40 000 foyers. 40 000 foyers, c'est la ville de Bordeaux, c'est 200 000 habitants. 200 000 habitants auxquels il faut ajouter évidemment tous les personnes en déplacement, c'est le périphérique, c'est l'autoroute A3, c'est toutes les voies urbaines. Et ce matin-là, tout simplement, j'avais plus possibilité d'écouter le journal de France Inter à 8 heures. Et bon, étant journaliste, à l'époque en pleine activité, ne pas écouter le journal, entre autres, mais ne pas écouter non plus toutes les stations. Il y en a 7 dans le groupe Radio France. Ça m'a perturbé. Je me suis dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Bon, c'est vrai que je suis un citoyen assez actif. À l'époque, j'étais déjà, je militais sur Bagnolet, sur le 20e arrondissement. Je suis très amateur de radio, d'abord parce que je suis mélomane, ensuite parce que je suis un ancien de radio locale. J'ai commencé très tôt, vers 23 ans, j'étais à Radio Ivre, une des premières radios de Paris, qui était l'une des pionnières du temps où on installait les antennes sur les toits. Et la radio, c'est pour moi un média essentiel, c'est un vecteur absolument prioritaire. D'ailleurs, je suis aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir parler de radio à la radio. J'ai eu cette expérience de radio à Paris au début de ma carrière, ensuite j'étais dans la presse écrite. Mais ce jour-là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et c'était donc en octobre 2002. Et j'ai commencé par m'interroger, me renseigner. Télérama m'a aidé, le journal Télérama a publié très vite un article indiquant que deux réémetteurs du groupe Radio France avaient été arrêtés. À l'époque 2002, on est en plein euro, au lancement de la monnaie. C'était pour les aveugles, semble-t-il, et puis on récupérait des fréquences. Bon, tout cela m'a ouvert les yeux sur un univers très particulier qui est l'univers de la radiodiffusion, que vous connaissez bien. En fait, il n'y avait pas que le groupe Radio France, dont j'étais privé. C'était toutes les stations, mais ça j'ai compris plus tard, qui étaient émises depuis la Tour Eiffel. Et qu'est-ce qui se passait? Ben, c'est tout simplement qu'à la Porte de Bagnolet, il y a deux tours qui ressemblent aux tours de New York qu'on a vu disparaître en l'an 2000. Ces deux tours jumelles sont à 125 mètres de hauteur. Et il y a des antennes en haut des deux tours. Et ces antennes créent une zone de perturbation. Le CSA, comme les radiodiffuseurs, le savent très bien. Ça crée une zone de perturbation sur un, à peu près, comme un cône, comme un chat de peau chinois. sur à peu près 2,5 km au sol. Et dans cette zone de 2,5 km, je vais dire de rayon, ça fait quand même 5 km en tout, on ne peut pratiquement pas recevoir la bande FM, des émissions qui, elles, sont diffusées depuis la Tour Eiffel. Alors en plus, avec des différences importantes, c'est très physique la radio, hein. C'est des ondes qui émettent, c'est de l'hertzien, c'est-à-dire que ça passe par le ciel, vous le savez bien, parce que vous avez donné la fréquence de Lucandiwa et la fréquence de Die. On peut changer de terrain, et surtout en montagne, on comprend bien que les ondes passent ou ne passent pas. Mais à Paris, il y a une situation très particulière, je voudrais juste vous expliquer ce qui se passe, c'est que depuis la libéralisation des ondes, dont on ne peut que se réjouir, donc dans les années 1981, avec l'arrivée de François Mitterrand, de Georges Filiou, on libéralise les ondes, on donne accès donc à plein de stations, et à Paris, il se passe une sorte d'ouverture, de déblocage, et on ne calcule plus, on va donner des autorisations en surnombre. Actuellement, il y a 57 stations sur la bande FM, c'est un record mondial, c'est-à-dire que vous bougez d'un demi-millimètre votre bouton sur la bande FM et vous passez à une autre station. Et il y en a tellement que la tour Eiffel est saturée, on ne peut plus installer d'émetteurs, d'ailleurs ils les descendent, ils sont en train d'installer au pied de la tour Eiffel des installations tout à fait nouvelles, creusées, Et on a tellement de stations qu'il y a déjà saturation. Par ailleurs, comme il y a saturation, on essaye d'installer des antennes ailleurs. Et on a choisi l'Est parisien, pas tout à fait par hasard, parce qu'évidemment, on aurait pu choisir l'Ouest. On aurait pu les installer en haut de la porte Maillot. Mais la cône de perturbation dont je parlais tout à l'heure, ça aurait provoqué évidemment des nuisances du côté de Neuilly, du côté du 16e arrondissement, dans des quartiers huppés. Alors que Porte de Bagnolet, mon Dieu, on s'est dit, les gens vont peut-être... est-ce qu'ils écoutent vraiment la radio, ces gens-là? Enfin, j'abuse un peu, je tire le trait, mais c'est un peu ça ce qui s'est passé. Donc, de 324 sur la tour Eiffel, 324 mètres, on passe à 124 mètres, à peu près 125 mètres au Mercurial, et on installe deux antennes qui, en plus, sont gérées par deux concurrents. En France, il y a deux sociétés, deux entreprises qui sont deux énormes groupes qui gèrent les antennes. Je ne sais pas, Radio Diwa, par quelle antenne vous êtes, mais c'est soit TDF, qui est donc l'ancien France Télécom, un diffuseur
nous,
public.
C'est Towercast. Hein.
Et puis l'autre, c'est Towercast. Towercast, qui est une holding financière qui n'est que le faux-né de Énergie et de Jean-Paul Baudecroux. Voilà la situation que je découvre, mais je mets évidemment un peu de temps, de 2002. Heureusement, je m'aperçois que la première adjointe de Bagnolet a déjà écrit une lettre au CSA. Et puis, je me renseigne, je crée une pétition, je lance le mouvement, j'essaye d'alerter les gens et je m'aperçois que tout le monde se plaint de cette situation, mais que chacun pense que c'est sa propre radio qui ne fonctionne pas.
J'avais ce cas de figure, habitant dans le 19e, à cette époque-là, je me souviens, pour Radio France, la perte de fréquence vers 18h, et heureusement, il y avait Rire et Chanson, qui était très bien perceptible. Parfois, France Culture laissait la place à Skyrock, et c'était...
Une foire d'empoigne.
Oui,
c'était
voilà.
Une foire d'empoigne des fréquences, effectivement, c'est une situation ubuesque, et moi, quand je me suis lancé dans cette histoire, j'ai d'abord été très très surpris de tout cela, j'ai d'abord eu beaucoup de mal à dénouer, à démêler. C'est pour ça que d'ailleurs j'écris ce livre. J'écris ce livre parce que quand on est un citoyen, comme je l'étais à l'époque, et je le suis toujours, bien sûr, dans une situation, dans une injustice telle, on n'est pas, je comprends très bien que du côté je pense à Étretat, entre les falaises, il puisse y avoir des difficultés de réception, qu'un citoyen ou une dizaine puisse être privé de radio, ça ne me gêne pas. On comprend qu'il y a des difficultés physiques, géologiques, qui peuvent empêcher la diffusion de la radio. Là, on est dans une situation très différente. On est dans la capitale du pays, on est dans un pays quand même puissance mondiale. qui bénéficient de technologies numériques. Déjà, on est en 2002, 2003, on a le lancement d'Internet, on commence à voir le web, tout ça, et puis on ne peut pas écouter un support qui fonctionne depuis très très longtemps, qui est la bande FM. En plus, en sachant que Radio France est un groupe unique dans le monde qui est extrêmement attentif à la qualité. Et puis, il y a, c'est vrai, cette station, mais il n'y a pas que France Inter, il y a France Culture. Moi, je suis très attaché à France Culture. Je suis très attaché à la qualité du son sur France Musique. Et donc, je suis là en 2002. Alors, si j'ai écrit ce bouquin, c'est simplement pour expliquer, pour raconter comment, quand on est tout seul, qu'est-ce qu'on peut faire face à une injustice notoire, énorme? Comment on se retrouve face à des interlocuteurs qui vous rejettent, que ce soit évidemment les opérateurs? Et ce n'est pas le pire, les opérateurs. Je pense à TDF et je pense à Towercast. TDF est aujourd'hui une société privée qui a été rachetée depuis sa privatisation, je crois en 2005 ou 2006, qui a déjà été rachetée 2-3 fois par des fonds de placement, enfin des grosses sociétés, il y en a des anglaises, enfin bref. Et puis Towercast. Et finalement, j'ai dû, après avoir lancé une pétition que j'envoyais toutes les semaines, qui se remplissait mais facilement, puis cette pétition, j'ai réussi petit à petit à le mettre sur le net, et puis j'ai alerté les politiques, les élus de ma commune. Moi, j'étais bagnoletais, mais j'ai alerté le maire des Lilas. Bagnolet, c'est 37 000, 36 000 habitants, les Lilas, c'est 24 000, mais il faut imaginer que le 20e arrondissement, c'est plus de 200 000 habitants. C'est la ville de Bordeaux pour le seul 20e arrondissement.
Voilà, comme vous le disiez en début d'émission. Et puis, il y avait aussi la possibilité pour France Inter, je me souviens, d'accéder par les grandes ondes qui étaient encore perceptibles.
Exactement.
À cette époque.
Oui, oui, oui.
C'était le recours que j'avais pour écouter au moins les informations. Les 100 radios, pourquoi ce titre? C'est un terme qui a été donné très rapidement au début.
Alors,
de ce mouvement.
Vous avez raison de soulever ce point. J'ai rencontré beaucoup de monde avec cette affaire. J'ai rencontré, comme je le disais à l'instant, des élus, toutes sortes d'élus, à toutes les strates. Bon, c'est vrai que j'avais une certaine expérience comme journaliste du monde politique et ancien attaché de presse et membre de cabinet ministériel, donc je connaissais tout cet univers. Mais il se trouve qu'un jour, j'ai reçu un coup de fil, et je suis content de le souligner et de le saluer, d'un écrivain qui m'a dit: écoutez, moi je suis insomniaque, je m'appelle Jean-Louis Fournier, j'arrive pas à dormir la nuit, et la radio pour moi c'est essentiel parce que je suis angoissé la nuit, et quand j'ai ma radio ça, et là depuis, comme vous, je me suis aperçu que ça marchait plus. Alors j'ai oublié de signaler tout à l'heure que ça ne marchait plus aussi parce que des réémetteurs s'étaient arrêtés. Et ce Jean-Louis Fournier m'a dit: je vais vous aider, je connais du monde dans le showbiz, dans la radio, et d'ailleurs on a été ensemble effectivement à la présidence de Radio France. Et c'est lui qui très vite m'a dit: il faut que vous appeliez votre mouvement les 100 radios de l'Est parisien. Ça a été tout de suite. Bon, Jean-Louis Fournier est un auteur qui a un humour particulier. C'est l'ancien réalisateur des émissions de Pierre Desproges. Il était très proche de Desproges, de Bedos. Et Jean-Louis m'a accompagné. On est devenus très copains, très amis. Il a écrit d'ailleurs la préface du bouquin. Et c'est lui qui m'a d'ailleurs aussi suggéré de d'écrire ce livre sur un mode léger, amusant, parce que c'est vrai que ça a été, alors disons-le, 14 ans de combat, hein, 14 ans de combat de 2002 à 2016, 2014, 2014 pour l'installation, parce qu'on est arrivé à trouver malgré tout une solution, mais pour arriver à cette solution, comme vous l'avez certainement lu, il a fallu que je passe par la voie judiciaire, par la justice, après avoir créé en 2005 une association avec des administrateurs, bon, des citoyens, des gens de Bagnolet, des gens de Paris, des gens des Lilas. Il a fallu que je trouve un avocat militant, un Lilasien, que je salue aussi parce qu'il a fait un travail absolument remarquable, sans jamais demander à en être rémunéré, sauf pour sa collaboratrice, parce qu'il a fait un travail de recension dans un domaine qui n'était pas le sien, il n'était pas du tout dans ce droit-là. Et on s'est trouvé, nous, confrontés en tant qu'association, lançant des actions en justice dès 2005, on s'est trouvé confrontés à des cabinets d'avocats, évidemment, conséquents, parmi les plus gros de Paris.
Cette aventure, hein, de cet accès à la radio sur ce territoire, à une odyssée. C'est un peu ça, cet océan.
Oui, je peux vous raconter un petit épisode. C'est vrai que je rencontre des élus. L'un d'eux, au début, m'a bien aidé. C'était Claude Bartolone, dont on a complètement perdu la trace, qui a posé des questions à l'Assemblée nationale. Il était encore député et président du Conseil général. Et puis, le ministre de tutelle de la radio, c'est le ministère de la Culture, n'était pas dans l'hémicycle à ce moment-là et a été voir Claude Bartolone et lui a dit « Mais il faut que vous veniez rue de Valois au ministère de la Culture avec ce monsieur-là qui se bat. » Et alors, on a été comme ça reçus par Renaud Donnedieu de Vabre, qui avait fait un passage au ministère de la Culture peut-être 2 ans, je crois. Et il a été absolument charmant, très accueillant, en nous offrant un excellent café et en nous disant au moins 6 fois, 7 fois « Monsieur Léon, vous avez fait un parcours du combattant pour arriver jusqu'à mon bureau. Un parcours du combattant. » Alors ça, c'était son expression. Il est vrai que Renaud Donnedieu de Vabre n'est pas du tout un spécialiste de la culture, mais est spécialisé dans les affaires de défense nationale. C'est peut-être pour ça qu'il parlait de combattants. En tout cas, il a fallu, grosso modo, pour aller vite, lancer une action en justice au tribunal de grande instance. Et notre avocat, après avoir bien travaillé la question, nous a dit « Soit on attaque les opérateurs, soit on attaque l'administration, soit on fait les deux. » Si on attaque l'administration, c'est-à-dire le CSA, la haute autorité auprès du président de la République, on aura éventuellement une condamnation symbolique et on n'obtiendra rien. Par contre, si on attaque les opérateurs pour trouble de voisinage, c'est-à-dire en tant que voisin, je me plains parce que toi, tu diffuses des émissions et que j'ai une nuisance, il est possible, en faisant aussi agir le politique, en jouant de plusieurs leviers, qu'on aboutisse à quelque chose. Et c'est ce que nous avons fait entre 2005 et 2011-2012. 4 actions en justice. Alors, je peux quand même dire qu'au départ, au tribunal de grande instance, il y a eu la nomination d'un expert en appel. La première instance a dit « Oh ben non, nous, on n'est pas compétents pour juger de ça ». Mais heureusement, nous sommes repartis à l'attaque en appel. Et en appel, le tribunal de grande instance a donc nommé un expert. L'expert a travaillé 1 an à peu près. Il a confirmé tout ce que moi, tout à fait en amateur, j'avais pu citer, c'est-à-dire le nombre de plaignants, la source de la nuisance, c'est-à-dire ces antennes au Mercure. Parce qu'il faut dire, et ça c'est un point essentiel, que pendant de 2002 à 2006, 2007, jusqu'à ce que l'expert rende son avis, la plupart de mes interlocuteurs contestaient même la nuisance en disant « Mais non, c'est vous qui n'avez pas une bonne radio, rentrez l'antenne, sortez l'antenne, vous devez nouer le fil qui est derrière votre chaîne, ou vous devez au contraire l'étendre. » Enfin, tout était bon. Jean-Louis Fournier a écrit un texte très drôle là-dessus. Tout était bon pour nous ridiculiser. Et c'est aussi pour cela que j'écris ce livre. C'est parce que c'est connu. On commence d'abord par contester le problème, contester l'injustice. Et ça, il n'y a rien de pire.
Je me souviens, à l'époque, ça ne faisait pas grand bruit, cette histoire, dans la presse locale. On ne mentionnait pas ces mouvements de contestation sur ces...
Alors, je réponds à votre question volontiers, parce que c'est vrai qu'étant moi-même dans la presse, étant ancien attaché de presse, je peux vous dire que j'ai remué le landerneau, comme on dit, hein. Et même pour ce livre, d'ailleurs, hein, là, 20 ans plus tard, c'est très compliqué de remuer la presse. J'en sais quelque chose. Comment l'ai-je fait ? J'ai obtenu l'attention d'une journaliste de Libération, qui d'ailleurs a quitté le journal quelques mois plus tard, qui était elle-même bagnoletaise. À l'époque, Libération était un journal extrêmement lu. Dans toutes les autres rédactions, encore une fois, c'est mon métier, je connais bien cet univers, je connaissais. Et l'article d'Annick Peigne-Julie qui disait, grosso modo, mais c'est dingue à Bagnolet, les citadins ne peuvent même pas écouter la radio. Cet article a été relayé dans beaucoup de journaux. Le Parisien m'a tout de suite appelé. Et puis j'ai eu droit plus tard à France Inter, le journal de 13h. Ça a été Patrice Drouel. Je ne sais pas si certains auditeurs écoutent quelquefois son émission. Et ben Patrice, il s'occupait du 13h de France Inter. Et un jour, il a ouvert, j'étais très fier, le journal de 13h. Par notre aventure des 100 radios, en disant ben, « il y a quelqu'un qui ne peut pas nous écouter et je vais lui donner la parole ». Et ils m'avaient interviewé le matin même. Donc il a fallu que cette journaliste de Libération écrive pour que cela se diffuse. Après, j'ai une double page dans le Nouvel Observateur, j'ai eu pas mal de papiers, mais ça fait tache d'huile très lentement. Et c'est vrai que quand on est dans le déni, et c'est ça qui est quelque chose d'insupportable. Le déni d'une injustice, c'est quand on vous conteste l'existence même du trouble, que c'est peut-être pour ça, parce que tout le monde me dit « Mais pourquoi t'as tenu aussi longtemps ? Comment t'as réussi à t'accrocher à cela ?» Moi, quand je suis face à une injustice et qu'on la conteste, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et c'est ce pourquoi aussi j'ai écrit ce livre, c'est pour raconter l'histoire d'un citoyen face à des opérateurs industriels. Towercast, c'est Jean-Paul Bodecroux, c'est une des plus grosses fortunes de France. Et TDF, c'est aussi des très gros industriels, c'est des gens qui ont d'énormes moyens et qui vous regardent et vous toisent avec mépris. Et ça, c'est aussi odieux. Alors, j'ai eu de la chance dans mon aventure. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis Fournier, de rencontrer des administrateurs à Bagnolet, des gens du quartier, pas nécessairement de passionnés de radio d'ailleurs, mais qui trouvaient aussi qu'il fallait faire quelque chose. Et puis à la fin, après ces quatre actions justice, alors disons un mot quand même de ces quatre actions justice, hein. L'expert donc en 2007 rend un rapport. Évidemment, tout de suite, il y a un appel des opérateurs qui ne sont pas d'accord. Mais pire que ça, il nous envoie en cassation. On a un pourvoi en cassation. Quel est le citoyen qui peut comme ça se défendre ? Bon, il se trouve que moi, à l'époque, j'avais un copain qui était avocat à la Cour de cassation, mais c'est vraiment hasard, il est mort depuis, le pauvre, et qui a défendu notre affaire. En d'ailleurs, à chaque fois, quatre procès, on a gagné. Et c'est aussi, ça a une chance, la justice de la République. On peut s'en plaindre, n'empêche qu'elle peut fonctionner, et dans notre cas, elle a condamné les opérateurs à nous verser des indemnités. Ce n'était pas la radio qu'on avait obtenue, mais au moins, on avait des indemnités, ce qui nous a permis de mettre des moyens dans notre combat.
Vous vous référez à trois phrases en début de livre, dont celle d'Arthur Schopenhauer. Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ça a été votre position.
Exactement.
Ensuite, elle subit une forte opposition. Donc ça, c'est par rapport aux affaires de tribunaux, j'imagine. Et puis ensuite, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Alors l'évidence, quelle est-elle ?
Ah bah, c'est la phrase de Schopenhauer, elle reprend d'ailleurs celle de Gandhi qui est juste au-dessus et qui dit ça. Moi, je tiens surtout à dire que quand on est face à ce type de situation aberrante, on se retrouve face par exemple à une autre autorité, le CSA, la Tour Mirabeau dans le 15e, où vous avez un interlocuteur qui vous dit « Mais enfin monsieur, qu'est-ce que vous venez nous embêter avec votre histoire ? Enfin, vous demandez à écouter la radio, mais il y a des endroits où on peut pas écouter la radio. » Et là, je lui dis, mais enfin, on n'est pas dans une situation topographique très compliquée. On est dans le 20e arrondissement, on est dans une capitale européenne, on ne peut pas écouter la radio. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la situation, effectivement, les gens commencent à admettre l'outrecuidance de cette réalité. C'est invraisemblable de se retrouver comme ça face à des interlocuteurs qui vous méprisent, parce qu'il y a eu du mépris. J'ai été voir Dominique Baudis par exemple dans un salon avec entouré d'élus. J'avais quand même des vœux de toutes les structures élus, hein, j'ai eu des vœux de tous les conseils municipaux, à Montreuil, à Bagnolet, au Lila, à Paris, dans le 20e, au Conseil de Paris, puisque c'est considéré comme un département, mais au Conseil régional. Il y a eu des interventions au Sénat, il y a eu des interventions à l'Assemblée nationale. Je ne lâchais pas le morceau. Eh bien, néanmoins, j'avais affaire... Je n'ai jamais, par exemple, au CSA, c'est important dans le Diwa, par exemple, où on peut avoir affaire à des hautes autorités, que ce soit la haute autorité de la santé ou que ce soit la haute autorité à la sûreté nucléaire. On a une centrale nucléaire qui n'est pas loin. Bon, il se trouve que moi, je n'ai jamais, écoutez bien, je n'ai jamais réussi à rentrer en contact avec un conseiller. Ils sont 9 au CSA. Aucun n'a jamais pris la peine. Il y en a un qui est spécialisé dans la radio. Aucun n'a jamais pris la peine de prendre contact avec nous et de se dire « je suis moi dans une haute autorité indépendante, soi-disant sous la seule autorité du président de la République, je représente donc le peuple français, je peux tout de même prendre l'initiative d'appeler ce pauvre air qui a Bagnolet, qui se plaint de ne pas recevoir la radio et de lui dire « monsieur Léon, venez donc dans mon bureau, on va parler ». Eh bien non, ça n'existe pas ça en France. Et c'est une situation... Alors il se trouve que comme journaliste, j'ai moi-même travaillé pour la Commission de régulation de l'énergie, qui est une haute autorité, comme le CSA, que j'ai travaillé, j'ai fait la lettre de la haute autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Ça en fait 3 que je connais un peu. Je ne connais pas la haute autorité de la santé. Je sais que il y a des hautes autorités comme ça. Il y en a 45 en France. Et c'est pour ça que ce bouquin, je voudrais qu'on en parle un peu plus, parce que je mets en garde simplement le citoyen sur le fonctionnement de ces structures dont on vante l'indépendance et que je voudrais juste signaler les dysfonctionnements. Il se trouve qu'au niveau de la haute autorité de sûreté nucléaire, ce sont des interlocuteurs très compétents. Il faut comprendre simplement une chose, c'est que ces interlocuteurs, que ce soit dans le nucléaire, dans la santé, dans la radio, la télévision, dans l'énergie, dans les marchés financiers. Vous avez aussi une haute autorité des marchés financiers. Tous ces gens se connaissent entre eux. À la fois les experts qui sont dans les hautes autorités et puis les industriels. Pensez à EDF, pensez à l'atome et à ce monde privé, serré de l'atome et à la haute autorité de sûreté nucléaire. Souvent, les uns et les autres passent de l'un à l'autre et les genres se mélangent. Moi, j'attire l'attention, après cette expérience de 14-16 ans de combat, sur ces mélanges de genres qui me paraissent extrêmement dangereux.
Ça vient un peu justement à ma question. Alors, l'association Les 100 radios de l'Est parisien se sont mis à éditer votre ouvrage, Les 100 radios. qu'est-ce que cette action permet pour vous, quel résultat d'ailleurs ?
Ah bah alors, c'est vrai que, donc je vais dire un mot de la solution qu'on a réussi à obtenir. Hein. C'est en plus intéressant pour Radio Diwa, mais vous suivez certainement tout cet univers. Dès le 2005-2006, nous avons entendu parler d'un nouveau mode de diffusion de la radio. Nous étions dans la période de la numérisation. Nous avons vécu à cette époque-là la numérisation de la télé. Nous sommes tous passés d'une radio, d'une télévision analogique à une télévision numérique. En France, ça n'a pas fait beaucoup de vagues. On est passé à ce qu'on appelle la TNT. Et vous avez on a dû acheter les uns et les autres des petits boîtiers pour pouvoir recevoir la télévision numérique. Dans le milieu de la radio, c'est exactement la même évolution. Nous passons d'une radio analogique, celle par laquelle nous émettons là peut-être en ce moment, à une radio numérique. La numérique s'appelle la radio numérique, la RNT. Et dans cette RNT, on a choisi en France, comme dans toute l'Europe, heureusement, mais ça n'a pas toujours été le cas, une technique particulière qui s'appelle le DAB+. Bon, c'est juste, hein, ça n'a pas d'intérêt pour l'auditeur, simplement de savoir que c'est le format qu'on utilise. Bon, le DAB+, il s'est répandu dans toute l'Europe très rapidement. Les Français ne le savent pas, sauf ceux qui habitent à Londres ou à Stockholm ou à Helsinki. En Norvège, vous n'avez plus de bande FM. En Suisse, le DAB+ est déjà largement répandu. En Italie aussi. Donc, la radio numérique s'est répandue. L'intérêt du DAB+, d'abord, c'est moins cher. Pas inintéressant. Ensuite, surtout, on peut mettre plus de stations. Ce qui est quand même une idée intéressante pour Paris en particulier. Il y a plus de stations. Et puis, techniquement, c'est très agréable. On reçoit la radio par ordre alphabétique. On choisit sa station par ordre alphabétique sans balader son curseur sur un... voilà. Et en plus, le son peut être très bon. Alors, peut-être très bon. On en parlera peut-être tout à l'heure, si vous voulez, parce que ça, c'est le nouvel aspect. Donc, la solution qu'on a trouvée, mais ça a été très, très, très long. Et ça a été grâce à deux administrateurs de l'association, dont un maître de conférence dont la spécialité était les ondes, et puis un autre qui était un grand mélomane, un journaliste scientifique, qui m'ont beaucoup aidé, qui écrivent dans le livre leurs témoignages. Julien Irzowski et Jean-Michel Blinginot, tous les deux en 2010-2011 m'ont dit, mais finalement, est-ce que la solution, ce ne serait pas d'aller voir Towercast ? Parce que TDF avait déjà arrêté son antenne. Très vite, TDF a quitté la porte de Bagnolet. Il ne restait plus que l'antenne de Towercast. Et donc, tous les deux m'ont dit, mais si on allait voir Towercast et qu'on leur disait d'installer une antenne en DAB+, ça fonctionne dans toute l'Europe, ça pourrait fonctionner chez nous, et nous contournerions le problème physique de la Tour Eiffel, nous pourrions recevoir... Alors, il faut des nouveaux postes de radio, certes. Il y en a qui ne coûtent pas cher, ça fonctionne. Bon, il faut changer, effectivement, comme on a changé la télé. Et puis, en fait, on a été voir Radio France, parce qu'il fallait, bien évidemment, que Radio France transmette le flux numérique. C'est un autre procédé de transmission, c'est plus de l'analogique, c'est du numérique. Mais Radio France était tout à fait intéressée pour le faire, puisque, de toute façon, c'est l'avenir. Et donc là, on a eu de la chance, c'était en 2012, je crois, on a été voir Radio France, et là, on est tombé sur le numéro 2 de Radio France, qui nous a accueillis en nous considérant là aussi un peu comme des rigolos. Sauf que quand il a commencé à échanger avec le maître de conférence de la faculté de Jussieu, il s'est dit, là, j'ai quand même pas affaire à du menu fretin. Et que lui-même sortait de Towercast. Donc, c'est là où je vous dis, il y a collusion souvent. Il était directeur général de Towercast et il est devenu numéro 2 de Radio France. Et là, il a eu cet homme dont je salue quand même l'ingéniosité, nous a dit, eh ben moi, je suis d'accord pour transmettre le flux numérique des stations, des 7 stations de Radio France, à Towercast. Et si Towercast vous met un petit... émetteur, ça a été un émetteur tout à fait conséquent, en haut de la tour des Mercuriales, cette fameuse tour de la Porte de Bagnolet, eh ben, on pourra trouver, on pourra enfin trouver une solution. Il faut dire qu'en même temps, nos quatre procès avaient pesé lourd dans la balance et que Towercast en avait peut-être aussi assez de devoir verser des indemnités. À chaque fois, 10 000 euros, ce n'est pas rien pour une entreprise. Donc, nous avions, nous, dans notre trésor, eu deux fois 10 000 euros, 20 000 euros pour une association de Bagnolet, ce n'était pas rien non plus. Et Towercast, finalement, a été approché et s'est résolu à cette solution. Alors, c'était en 2014, tout ça a pris beaucoup de temps. Je vous donne une solution, mais qui a fait l'objet d'une transaction juridique très compliquée, avec d'ailleurs un volet confidentiel que je ne peux dévoiler, mais je vous dévoile à peu près tout aujourd'hui au micro de Radio Diwa, parce que les choses sont faites. Et depuis, en 2016, Towercast a installé cet émetteur en haut de la tour de la Porte de Bagnolet, la Mercuriale, et les émissions ont été diffusées de façon expérimentale. Le CSA a accordé une autorisation expérimentale. C'était la première fois qu'on émettait en DAB+ en France et avec le groupe Radio France. C'était pas rien. Voilà. Et c'est à la suite, là, il y a au mois de mars 2022, je crois, ou 2021, enfin, il y a peu de temps, que le CSA a arrêté cette expérience, que Towercast a arrêté cet émetteur pour installer, cette fois, un émetteur officiel, non plus expérimental, et parce que le DAB+, s'est depuis diffusé sur Paris, Lyon, Marseille, Metz, Lille et d'autres villes. Il arrivera dans le Diois prochainement, j'en suis certain.
Et donc l'avènement du DAB+ s'étend actuellement sur toute la France. Est-ce qu'il y a eu des cas similaires aux vôtres que vous avez rencontrés dans cette période ?
Bonne question. On sait les uns et les autres qu'évidemment, en zone de montagne en particulier, il peut y avoir quelquefois une mauvaise réception, encore que c'est assez rare. Non, je peux relater une situation comparable et inverse. C'est-à-dire que là, c'était Radio France à Toulouse et qui brouillait par ses émissions des radios locales privées. J'en ai été tenu informé au moment où j'avais un maximum d'auditoires, un maximum de presse, d'articles dans la presse nationale. Et j'ai eu un retour de Toulouse. C'est la seule fois où j'ai eu ce retour. Il y a eu, citons-le quand même, un cas qui m'a beaucoup inspiré à Reims, un avocat qui était aussi professeur de droit public, auquel je me suis adressé, mais c'était avant l'aventure des 100 radios de l'Est parisien, c'était dans les années 2003-2004, qui avait mené lui aussi une action en justice et qui avait obtenu gain de cause parce qu'un quartier HLM de Reims était lui aussi privé de stations à cause d'une antenne de énergie. Alors là, c'était une antenne dédiée énergie. Il faut dire qu'à la Porte de Bagnolet, il y émet encore 9 stations, dont Radio Libertaire d'ailleurs, Radio Génération, de plusieurs stations qui sont émises, et que la situation au niveau de la bande FM n'a pas évolué. Les taxis vous le diront, si vous allez prendre un avion à Roissy et que vous arrivez de la gare de Lyon et que vous passez par la Porte de Bagnolet en général, eh bien vous ne pourrez pas écouter sur une zone qui part, pour ceux qui connaissent un peu Paris, qui part, disons, de la Porte de Vincennes et qui arrive jusqu'à la Porte de Pantin, grosso modo. Et tout autour, ça fait, par exemple, la précédente maire du 20e m'a acheté, parce que l'association a fait du troc de stations de radio, de postes de radio DAB+, et la maire du 20e de l'époque, Frédéric Calandra, m'en avait acheté 2 postes. Voilà, ces postes de DAB+ fonctionnent très bien, ça marche bien. Et puis, il y a la stéréo. Alors, se pose la question ensuite de la qualité du son.
Justement, avec ces flux de radio hein, qui émettent, il y a une baisse de qualité, vous pensez, pour pouvoir justement donner accès à un nombre conséquent.
Alors, je voudrais vous dire, d'une part, pour que l'auditeur comprenne bien, qu'aujourd'hui, la radio est émise, la radio est plutôt reçue sur différents supports. Et c'est très compliqué pour l'auditeur. Ça aussi, ça n'a pas facilité ma tâche. C'est que petit à petit, il y a eu la radio sur Internet. Donc, on pouvait aussi recevoir la radio par son téléphone, par le smartphone. Et beaucoup de gens me disaient, mais enfin, Michel, t'es complètement has-been. C'est fini, la radio en FM. Maintenant, tout le monde écoute sur son smartphone. C'est plus compliqué que cela. On peut recevoir la radio. Certains smartphones ont un récepteur FM. D'autres reçoivent la radio par Internet. Et quand c'est Internet, c'est compliqué. Est-ce que c'est la DSL, c'est-à-dire du filaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le réseau France Télécom, commuté téléphonique tout simple, ça c'est le DAB, la DSL, ou est-ce que c'est plutôt de l'hertzien par les antennes de téléphonie? Et la radio, donc, aujourd'hui, peut être reçue sur différents supports. Le DAB+, ce sont de nouvelles antennes, hein, de nouveaux émetteurs, c'est du hertzien, c'est par le ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que en matière numérique, vous le savez bien ici, j'imagine, en matière de numérique, les choses ont beaucoup évolué. Et le son peut être compressé dans différents sens, dans différents... Voilà. Cette compression, ces compressions, elles peuvent être intéressantes et elles peuvent donner aussi un son de merde, on va dire, en gros. Hein. Donc, en l'occurrence, la compression est tout à fait maîtrisée par le groupe Radio France, et en particulier lorsqu'il y a des émissions en stéréo. Radio France émet en stéréo sur France Inter et sur France Musique principalement. Il y a quelquefois des émissions sur France Culture et le Move. Je crois que le Move émet aussi en stéréo. Alors, tout dépend en matière de numérique et de compression de la quantité de débit que vous accordez aux stations. Actuellement, en DAB+, sans rentrer trop dans les détails, je ne suis pas technicien, on accorde par le groupe Radio France 88 kilobits par seconde aux stations. Il faut savoir que dans les pays voisins, en Allemagne, les stations, par exemple, classiques, pourquoi classique? C'est parce qu'on écoute de la radio, que ce soit le jazz ou que ce soit la musique du monde, de la Sierra Leone, ou peu importe. C'est simplement la qualité du son dont on parle, quand on parle de radio musicale, on va dire. Eh bien, il y a certaines stations en Bavière ou en Allemagne centrale où on accorde 198 kilobits par seconde. Ça n'a rien à voir. Cela dit, depuis que, et là j'ai un peu de mal techniquement à être précis, là j'ai besoin de la science de mes deux partenaires, on peut maintenant, même quand on accorde peu de débit à une station, par d'autres moyens préserver par des techniques, la qualité du son. Et même en 88 kilobits, on peut avoir un son AAACC, là, la qualité d'un CD, par exemple. Mais ce sur quoi j'appelle l'attention des auditeurs, ce que je fais dans ce livre, c'est que tout cela, c'est un combat citoyen. Et qu'il faut que chacun se mobilise et que l'on réclame. Et là encore, je n'ai toujours pas rencontré réellement le CSA, en tout cas pas l'un des membres des sages, comme on dit, des sages, mon Dieu, quel terme, porter une fonction pareille, vous vous rendez compte? J'ai envoyé il y a deux jours le livre au président de l'ARCOM, c'est le nouveau CSA, ça ne s'appelle plus CSA, c'est l'ARCOM. Je lui ai envoyé le livre, je verrai bien, je reviendrai peut-être un jour vous dire s'il y a une réponse. Je crains que non. C'est cela qui m'intéresse, moi. C'est que les gens qui m'écoutent, les auditeurs qui sont curieux de radio et qui sont nécessairement sourcilleux de qualité. Tout le monde a envie d'avoir une bonne station, une bonne radio d'Iwa la première, avec de la stéréo, avec un son qui s'étoffe, qui n'est pas abîmé, parce que le son compressé, on le sait, ça enlève des fréquences, tout ça, ça enlève... Voilà. Donc ça, c'est mon combat. Bon, je crois que je me suis déjà bien battu avec cette histoire des 100 radios, mais si je peux aboutir à cela... C'est de dire, il faut que chacun se mobilise. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a que le rapport de force qui joue.
Michel Léon, je vous remercie en tout cas d'être venu nous parler de cet ouvrage « Les 100 radios » qui est édité donc par l'association « Les 100 radios » de l'Est parisien. Un ouvrage disponible sur un site internet, j'imagine.
Oui, de toute façon, vous faites « Les 100 radios de l'Est parisien » où il y a un numéro d'ISBN et puis il y a un site... sansradio.org et là-dessus vous prenez le numéro du livre. Il est diffusé par la SODIS qui est un grand diffuseur national. On peut le facilement et il existe évidemment en e-book à un prix ridicule, je crois que c'est 2 euros et en papier il est à 12 euros en librairie. Voilà, donc il est tout à fait disponible.
On peut le trouver certainement à la librairie Mosaïque, a dit
Pas pour l'instant, parce que bon, c'est pas un sujet qui a totalement, comment dire, qui est central pour le DIWA, même si je trouve que comme combat citoyen, il illustre parfaitement d'autres combats qui peuvent être menés et qui peuvent certainement se servir de cette expérience. Je vous remercie en tout cas de m'avoir accueilli.
Merci aussi, bonne soirée à vous.
Klebnikov Carnaval. Poème grappéiste Klebni et Klebni ont volé le H, le H, 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 le H, 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 Klebniman. K K K K K H H Klebnikov in kofia et les sin kofia case un café Klebnikovitch ni Klebnikvi Klebnik drinken Klebnikov ça veut dire nous Klebnik nous buvons Klebnik café dans le Klebnik café nous buvons mesdames messieurs au Sevenouk à coffin coin mon président mon Klebnik président cher Klebnikson mon président Klebnikson oui mes chers Nixonik mon président, Klebnikson, par où? Par CH? Par K? Par qui? Parking? Par eux? Et maintenant, nous partons. Zéro. Partenons. Mais non. Mais non. Qu'est-ce que nous boirons, mon président? Buvons. Cher Klebnikovic, le Klebnik a fait le plus fort le décleb. Mes chers Klebnik, double Wertzulen, we drinken. Le décleb, Marzeus in Verkerd. Ici, la Silla, Sicile. Les Klebnissiles, ils ont tort. Ah, comme je Klebnikov, Ikofi, Café Klebnikovitch, ni Klebnik, les Klebnissiles, H. Le président de Choco Klebnova, qui est mon président, Klebniko, CEO, le coffre. Mon président, Main Klebni, président, Beste Klebnikson, mon président, Klebnik, Sombja, Main Liev, Nixonik. Le Klebnikoffre, mon président, tout est là. Tout est là, la fal des rafla de rafla fla fla les fla les fla les fla fla les fla les fla les flamandes nique sans rien rire elle nique sans rien rire fal des riri dans la Klebniu coffer. Mon président Klebniko CEO. De coffer back. Ça, c'est une offre mes chers Klebnik, l'offre érotique ce n'est pas nique nix. Mes chers Klebnik, l'offre secrète et érotique voici le 5 Klebnik. qui vous salue. Épilogue, l'échec de Kessel. GG Jean ZZZZ vous copie. Le check de Belch.